Boulevard 102.1.
Gratis. Spotify 10,99 par mois. Patreon 5$. Abonnement au câble 55$. Journal 24$. Boulevard 102.1.
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1. La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bon lundi, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 et sur les ondes de Boulevard 102.1 le lundi soir, c'est les lundis avec Maître Marc Bellemare. Dans Morceau Soir, Monsieur Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va très bien. Les fins de semaine sont très occupées avec les enfants qui sont en tournoi. Là, en fin de semaine, on était dans le secteur de Montréal. Et c'est toujours des expériences, hein, les hôtels à 250
pieds. Où dans le secteur de Montréal? Où dans quel...
C'est une bonne question, là. C'est...
Rive Nord, Rive Sud?
C'était sur la Rive Nord.
Ah, oh, c'est à Saint-Lin? Saint-Jérôme?
Saint-Jérôme, voilà.
Fait que... Ah, ça se fait bien, parce que t'es pas obligé de rentrer sur l'île, là. T'as juste à faire prendre la 40, la 640, puis...
Exact.
Parfait. Dans autant que tu traverses pas l'île de Montréal, c'est beaucoup moins pire.
Ouais, c'est ça. Quoi? Mais c'est vrai qu'à Montréal, des fois, le soir, quand on veut monter en ville, là, des fois, tu as du trafic à n'en plus finir quand tu es sur l'autoroute. Là. Mais bref, relativement, ça a bien été relativement en fin de semaine, Maître Bellemare.
As-tu gagné une bannière? As-tu fait des photos mémorables, des enfants avec la bannière?
On a gagné des expériences, je vais vous dire ça comme ça, Maître Bellemare.
Oh, OK, donc pas de bannière. Il existe encore des bannières, moi, dans mon temps...
Oh oui.
Le coup mineur, moi, ça finit, c'est fini, ça fait certainement une dizaine d'années.
Ils ont encore leurs petites médailles. Après ça, ils ont des médailles individuelles. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je gagnais tout le temps. Jamais le meilleur joueur du tournoi, c'était tout le temps le joueur le plus utile. Ça voulait absolument rien dire.
Hein.
Ça, c'est quand tu n'avais pas de talent, mais tu étais travaillant. C'était le joueur le plus utile. Mais mes gars sont un peu comme moi, ils sont très utiles pour leur équipe, mais ils ont le talent de hockeyeur de leur père. Fait que ça sera jamais des Connor McDavid ou encore des... Connor Bedard.
Non, mais écoute, d'avoir un titre, peu importe le titre, le joueur le plus utile, c'est quand même pas rien. Écoute, sur une équipe de 12 ou 13 ou 15 joueurs, il y en a 12 qui ont rien, puis il y en a un qui est le plus utile, puis l'autre qui est le meilleur joueur du match. Bon, puis des fois, le meilleur joueur du match, c'est souvent de l'autre équipe. Ou des fois, il y en a pas. Il y en a juste un, des fois, il y en a un par équipe. Mais c'est très variable, ça dépend des endroits où on va jouer, mais les tournois, c'est toujours bien le fun. Est-ce que tu vas là pour quelques jours, donc tu vas coucher là aussi?
Oui, on était là 2 jours, on était là vendredi, ben en fait vendredi, samedi, dimanche, mais on avait 2 nuits. La première nuit, c'est la mère de mes gars qui l'a fait, puis la deuxième, ben, c'est moi qui la faisais tout seul avec mes 2 gars là-bas.
Et quel niveau ils jouent là?
Pee-wee.
Oh, c'est le meilleur temps.
Sa première année. Ouais. Bon. Maître Bellemare, j'ai le goût de revenir avec vous sur un article que j'ai lu dans le Journal de Québec de vendredi sous la plume de Raphaël Pirault. On parle du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui demande carrément au fédéral, donc à son homologue fédéral, de criminaliser les discours haineux qui étaient prononcés sous le couvert de la religion. On est un peu choqué du côté du provincial concernant l'inaction du législateur fédéral à cet effet-là, puis surtout concernant tout ce qui se passe à Montréal ces temps-ci, des prophètes qui sortent sur la Sainte-Catherine, qui appellent carrément au génocide des Juifs sous le couvert de la religion. Et finalement, il n'y a pas d'accusations qui sont portées par la GRC, par la Sûreté du Québec ou encore par la police de Montréal. C'est assez particulier qu'on en soit là encore aujourd'hui, en 2024, où un gars comme Adil Sharkawi peut carrément dire Allah, peut carrément inviter Allah à se charger des agresseurs sionistes sans que Adil Sharkawi ait des problèmes. Ça devrait plus exister sans 2024. Là.
Mais on peut se demander, là, franchement, Yannick, là, pourquoi c'est dans le code criminel? Quel est le gouvernement stupide qui a introduit dans le code criminel une disposition à l'effet que les discours haineux sont criminels, les discours qui incitent à la violence contre un peuple, contre une race, contre une religion particulière ou un groupe de citoyens. Pourquoi avoir une interdiction, créer un crime du fait d'avoir des propos haineux, mais en même temps prévoir que si les propos haineux s'inscrivent dans la défense ou la présentation d'un point de vue religieux, ben tu ne peux pas être accusé. C'est assez niaiseux. C'est-tu assez niaiseux?
Ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les religions ont le dessus sur le crime. Ça veut dire que si tu commets un crime du fait que tu tiens des propos haineux, mais que c'est... Tu as une capine sur la tête, ou tu as une soutane, ou tu as un... Tu tiens des propos religieux, bien là, c'est plus des propos haineux, ou c'est des propos haineux qui sont sous le couvert d'une forme d'immunité, même en matière criminelle, qui empêche des accusations. C'est complètement ridicule. Ça me fait penser un petit peu aux religions qui traitent les femmes comme des merdes, là. Tu sais, il y en a beaucoup, hein? Puis on s'en cachera pas, là. La plupart des religions considèrent que l'homme est supérieur à la femme. J'en connais pas qui prétendent l'inverse ou qui prêchent l'égalité des sexes, là. Même la religion catholique, ça a toujours été. Alors, les codes religieux ne tiennent pas compte de l'égalité des sexes, ce qui fait que si tu donnes préséance à la religion sur les droits fondamentaux des femmes, bien, c'est toujours la religion qui va l'emporter. Et ça, je trouve ça tout à fait dommage. Il me semble qu'il y a des principes qui devraient tenir sans égard à la religion. Mais là, on permet à des gens d'en appeler au sionisme, à l'extermination des Juifs, à la haine contre les islamistes, et on tolère ça. Et c'est ça qui fait que tu vois, comme le médecin Éric Sabat, là, qui a été contraint de payer 25 000 $ en amende par le Collège des médecins, lui, il en avait appelé au grand nettoyage de Gaza. Charkaoui, dont tu as parlé tantôt, lui, on a une vidéo de lui qu'on peut retrouver facilement sur Internet, qui n'a jamais été accusé, même s'il a tenu des propos tout à fait incendiaires, largement médiatisé, tu viens d'en parler, qui avait appelé Allah à se charger des agresseurs sionistes, donc à exterminer finalement les Juifs. C'est incroyable, ça s'est passé à Montréal, on a une preuve béton, on a une vidéo. C'est clair que ses propos sont haineux, mais il n'a jamais été poursuivi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tolère n'importe quoi. Puis ça, c'est dans le code criminel, ça veut dire que ça s'applique partout au Canada. Après ça, on va se plaindre qu'il y a des imams, qu'il y a des prêtres, qu'il y a des grands sorciers qui vont venir dire n'importe quoi, et même en appeler à exterminer des groupes ethniques complets, des pays au complet, on ne peut pas les accuser. Alors, c'est le Collège des médecins qui a condamné ce fameux médecin à payer 25 000 $ et non pas la Cour. Charkaoui, lui, n'a jamais été puni d'aucune façon, ni par son ordre professionnel, s'il y en a un, ni par la Cour civile, ni par la Cour criminelle. Alors, c'est dangereux. Et après ça, on s'étonne du fait qu'il y ait eu au Québec, et juste le service de police de la ville de Montréal, là, depuis la fameuse agression du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023, on a recensé 310 crimes ou incidents haineux, dont 230 contre les Juifs, puis 80 contre les musulmans. À Montréal, je ne parle pas là, de l'ensemble du Canada. Alors, cette flambée-là, à mon avis, est attribuable au fait qu'on ne fait rien, que la police ne fait rien, que le DPCP ne fait rien, que le ministère de la Justice du Canada ne fait rien. Puis là, on commence à comprendre qu'il y a une disposition du Code criminel qui donne carte blanche à tous ces grands accusateurs-là, parce que le Code criminel leur donne finalement la possibilité de dire à peu près n'importe quoi sans qu'ils soient accusés. Fait que je comprends que le ministre de la Justice du Québec est exaspéré, lui, parce que c'est sur le sol québécois que ça se produit, puis il s'aperçoit qu'on n'a pas de cause, qu'on n'a pas de possibilité d'agir au niveau du Code criminel. Et là, il écrit au ministre de la Justice du Canada qui, lui, baille aux corneilles. Il trouve ça normal. Lui, il ne voit pas la relation entre son code criminel déficient et le fait qu'il y a une flambée de violence et de propos haineux à Montréal. Alors, c'est tout à fait dans la lignée du gouvernement Trudeau, Yannick, là.
Mais
Il ne
c'est
voit
pas.
rien, il ne fait rien.
Mais le droit
Alors qu'il
criminel.
devrait agir, puis il aurait dû agir de longue date
Le
dans ce
droit
domaine.
criminel ne devrait pas être politique, Maître Bellemare. Je comprends que c'est le gouvernement fédéral qui élabore les lois pénales là, qui s'appliquent dans tout le pays, mais le droit criminel ne devrait pas être politique. Puis, tu sais, actuellement, si on demandait à tous les gens qui étaient dans les rues qui manifestaient contre l'OTAN de mémoire, puis qui criaient à la haine d'Israël et tout ça, si on leur demandait pour qui ils votent, ces gens-là, il y aurait fortement du Québec solidaire, du NPD au fédéral, puis du Parti libéral. Le Parti libéral, c'est qui va se tirer dans le pied, c'est qu'il décide d'embarquer dans les histoires de religion, puis de dire que quand vous vous appelez à l'éradiction des Juifs, ben vous ne pouvez pas vous cacher sous le couvert de la religion. C'est sûr qu'ils perdraient des votes. Ça semble être politique, puis ça ne devrait pas l'être, le droit criminel. Pouvez-vous m'expliquer, parce que vous avez été ministre de la Justice au Québec, quels sont les pouvoirs de Simon Jolin Barrette par rapport au droit criminel provincial? Est-ce qu'il y a un pouvoir en particulier ou c'est juste le fédéral qui peut faire certaines modifications dans les lois?
Bien, le code criminel, ça relève d'Ottawa, c'est marqué dans la Constitution
Oui.
depuis 1867.
Exact.
Le code criminel relève entièrement du gouvernement
C'est
fédéral. Les
l'article
provinces ont
1.
zéro, aucun pouvoir. La seule chose que la province fait, parce que la Constitution prévoit que le code criminel, donc, qui décide que c'est un crime ou que ça n'en est pas? Qui décide que l'avortement est un crime ou qu'il n'en est pas? Qui décide que l'alcool au volant, c'est telle peine de prison pour un multirécidiviste? Qui décide que les propos haineux, c'est inacceptable et ça constitue un crime? La violence, les agressions sexuelles, c'est le gouvernement fédéral dans le code criminel. Point. Les provinces sont chargées dans la Constitution de l'administration de la justice. C'est pour ça qu'il y a une couronne, un DPCP. Donc, c'est les provinces qui décident d'initier des recours, des accusations contre quelqu'un qui viole le code criminel. Mais le gouvernement du Québec n'a aucun pouvoir de criminaliser tel ou tel geste ou tel ou tel propos.
OK, mais
Alors, c'est
mettons, je
ça.
donne un exemple, Maître Bellemare, là, quand on regarde pour ce qui est des conduites avec facultés affaiblies, bon, partout au Canada, c'est 0,05, puis au Québec, on est encore à 0,08, puis ça, là, ce serait Simon Jolin Barrette qui pourrait décider de ça, de l'abaisser à
Non.
0,05?
Le code criminel prévoit 0,08. C'est partout au Canada. À partir de 0,08, c'est criminel. Donc, c'est faculté affaiblie ou d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie plus élevé que 0,08. Les provinces peuvent adopter des lois pour prévoir des sanctions qui ne sont pas des crimes, des sanctions administratives comme le retrait temporaire du permis, la saisie du véhicule. Ils ont le droit de faire ça, mais ce n'est pas un crime. En ce sens que si tu conduis à 0,05 en Ontario, tu risques d'avoir des tickets, tu peux peut-être faire saisir ton véhicule pendant quelques heures, mais tu ne seras jamais accusé du crime, en ce sens que tu ne seras pas éligible à une peine de prison ou ça ne sera pas considéré comme un crime qui pourrait éventuellement t'exposer à une autre peine plus sévère s'il y avait récidive. Donc, c'est ça. Tu peux conduire à 0,06 en Ontario, puis en Alberta, puis perdre ton permis 40 fois.
Mais tu n'auras pas de dossier
Mais tu ne
criminel.
seras jamais accusé d'un crime parce que tu n'as pas dépassé le 0,08, qui est la norme prévue dans le Code criminel. Si le gouvernement du Canada décidait d'abaisser la règle à 0,05 comme étant un crime dans la grandeur du Canada, bien là, il y aurait des peines de prison, puis la cour criminelle, puis toute la patente.
Puis à ce moment-là, le Québec n'aurait pas le choix de descendre ça aussi à 0,05.
Ça serait un crime à 0,05, puis toutes les mesures administratives seraient plus ou moins utile dans les circonstances si le code criminel le prévoyait, mais c'est parce que certaines provinces considèrent que 0,08, c'est encore trop tolérant. Puis il y a des études qui démontrent qu'en bas de 0,05, en bas de 0,08, entre 0,05 et 0,08, il y a toujours un risque accru d'accident mortel. Alors, compte tenu de ces études-là, ils adoptent des politiques, mais qui relèvent non pas du code criminel canadien, mais des codes de sécurité routière qui sont appliqués dans chacune des provinces.
Ouais. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait rouvrir cette constitution-là? Vous mentionnez l'article 1 en 1867, c'est assez archaïque, Maître Bellemare. Est-ce qu'on pourrait justement, parce que ce que les gens vivent au Manitoba, mettons, dans les manifestations, c'est pas la même chose qu'on peut vivre à Montréal, là, où c'est extrêmement violent. Est-ce que les provinces pourraient demander au fédéral, je sais pas moi, d'amender ça puis de faire quelques modifications avec l'accord du fédéral, peut-être, ou pas pantoute, là?
Ben, il faudrait modifier la Constitution pour prévoir, par exemple, que le code criminel relèverait des provinces, ce qui n'est pas impossible. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de lois de cette nature-là qui relèvent des États,
Exact.
mais au Canada, c'est la même chose partout. Ça veut dire que pour le législateur en 1867, parce que la Constitution canadienne, fondamentalement, de 1867, c'est ce qu'on appelle l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. C'est une loi qui a été votée par le Parlement de Westminster à Londres, à l'époque où le Canada était une colonie. Et le partage des pouvoirs, ça a été ça. L'éducation aux provinces, par exemple, le code criminel, la poste, l'armée au fédéral. Donc, il y a un partage des pouvoirs qui est aujourd'hui plus ou moins respecté, mais qui permet au Québec d'avoir une certaine autonomie. Mais le code criminel, j'ai toujours trouvé ça bizarre que ça relève d'Ottawa, en toi et moi, là. Parce que, par exemple, tout ce qui touche le droit à l'avortement, il pourrait y avoir des différences entre certaines provinces,
Comme
les
aux
valeurs
États,
d'une province par rapport aux valeurs de l'autre. Tu sais, les crimes
comme on a fait aux
haineux.
États-Unis pour ce qui est du droit à l'avortement, là, c'est les États qui vont voter à savoir s'ils sont pour, s'ils sont contre, jusqu'à quel degré ils sont pour, jusqu'à quel degré ils sont contre. C'est à peu
C'est
près ce qu'on a.
ça.
OK. Ouais, je
Tu sais,
comprends.
l'alcool au volant, on pourrait bien décider, nous autres, au Québec, que c'est criminel à partir de 0,07, puis l'Ontario pourrait dire 0,05, puis il pourrait y avoir des différences, mais c'est une compétence fédérale, et dépendant des provinces, évidemment, il peut y avoir des demandes qui sont un peu plus sévères au niveau des peines. Certaines provinces peuvent décider d'accuser et d'autres de ne pas accuser, comme par exemple, il y a quelques mois, le ministre de la Justice, qui contrôle finalement tout le processus d'accusation, qui est Simon Jolin-Barrette, a annoncé, si mon souvenir est fidèle, qu'il n'y aurait pas d'accusation contre des médecins qui allaient dispenser l'aide médicale à mourir dans certains cas. Parce que le code criminel n'est pas clair là-dessus et il pourrait y avoir des risques qu'un médecin pourrait être accusé ou condamné éventuellement pour avoir procuré l'aide médicale à mourir à un patient qui pourrait être considéré comme une assistance au suicide. Alors, le ministre Jolin Barrette a dit, nous, comme gouvernement provincial qui dirigeons les accusations, qui décidons d'accuser ou pas, on dit qu'on n'accusera pas les médecins dans tel type de dossier. Donc, ça veut dire que le code criminel prévoit que c'est un crime, mais que la province n'accusera pas les médecins dans tel type de dossier. C'est un peu comme si le code criminel permettait, je ne sais pas moi, des crimes haineux sans, dans toutes circonstances, interdisait les crimes haineux dans toutes circonstances, mais que le gouvernement du Québec disait, nous autres, on est bien pour soi et religion, puis on n'accusera jamais personne qui a un discours haineux. Exemple. Ça peut se faire, c'est assez exceptionnel, mais évidemment, c'est les provinces qui décident s'ils accusent, dans quel cas, puis s'ils demandent telle peine, puis s'ils vont en appel, si la peine est insuffisante. Puis c'est pour ça qu'il y a des différences dans les peines criminelles assez importantes entre l'Alberta, l'Ontario puis le Québec. Au Québec, on accuse moins, on demande moins de peines sévères, on va moins contester devant les cours d'appel des peines considérées comme clémentes, alors que les Ontariens et les Albertains sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus tough on crime, comme on dit en anglais, c'est-à-dire beaucoup plus sévères au niveau des peines en Alberta puis en Ontario. C'est connu. Les tribunaux québécois, puis les peines qu'il y a au Québec sont moins sévères à cause de, bon, c'est culturel, puis c'est tout notre processus d'accusation qui est un petit peu plus tolérant, malheureusement, parce que moi, je suis plutôt en faveur de peines plus sévères, comme tu le sais. Et je considère que, de façon générale, nos tribunaux sont beaucoup trop cléments, mais ça, c'est. Ça, c'est la culture québécoise qui nous mène dans cette direction-là.
C'est sûr qu'on présume de la bonne foi du procureur général du Canada, qui est le ministre de la Justice du Canada, mais le fait qu'il soit un politicien d'un parti, que le fait que sa décision peut jouer en défaveur de son parti, puis que ça peut avoir un impact sur la suite de sa carrière, j'ai l'impression que cette partie-là, on devrait comme. Tu sais, je comprends, il faut y faire confiance, puis c'est un avocat et tout ça, mais j'ai l'impression que cette partie-là, moi, j'ai un malaise avec ça, tu sais. Parce que lui, il peut prendre des décisions qui vont l'avantager versus des décisions qui n'avantagent pas les Canadiens.
Je parle du ministre Virani, là, ministre de la Justice du Canada.
Exact.
Mais le ministre de la Justice du Canada, il est dans le gouvernement Trudeau.
Exact.
Harry Virani, parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas un seul auditeur à soir qui sait c'est qui le ministre de la Justice du Canada, tellement on n'entend jamais parler. Mais, et avec raison, parce qu'il ne fait rien. Alors, lui, il est dans un gouvernement qui s'appelle le gouvernement de Justin Trudeau. Et le gouvernement de Justin Trudeau, ben, c'est les minorités, l'immigration, les religions, le multiculturalisme, le pays post-national, puis tout le monde fait ce qu'il veut, puis la liberté, puis venez avec vos religions, puis avec vos costumes, puis avec vos bérets, puis avec toutes vos manières, puis avec toute votre culture que vous importez au Canada. Et c'est ça, le gouvernement Trudeau. Alors, lui, il est, compte tenu qu'il a toujours été pro-minorité religieuse, puis pro-liberté de religion, avec la charte de son père, Pierre-Elliott Trudeau, de 1982, ben là, tout ce qui s'appelle accusation ou crime qui pourrait s'attaquer à des communautés religieuses plus radicales, on dirait qu'il ne veut pas toucher à ça, de peur de s'aliéner cette clientèle-là électorale. Lui, ce qu'il veut, c'est que les Juifs votent pour lui, Trudeau. Il veut que les Arabes votent pour lui, les islamistes. Il veut que les Sikhs votent pour lui parce que c'est un petit peu sa clientèle. Parce qu'il a toujours été pour ça. Beaucoup d'immigration, respect des religions, respect des différences. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous. Voilà. Alors là, on lui demande de modifier le code criminel puis de permettre d'accuser les charcaouis de ce monde qui distribuent des discours haineux. Ah, oh, bien, on ne touche pas à ça. Il aime autant pas toucher puis pas bouger. Sauf que le ministre Jolin Barrette a raison. En ne bougeant pas, on tolère tout. On tolère les discours, on tolère les manifs. Puis là, il y a une escalade de violence. Et il y a des groupes et des individus qui s'attaquent à des groupes ethniques, à des groupes religieux opposés, qui ne sont pas nécessairement de leur bord. Et là, il y a comme une escalade de violence, tant verbale que physique, que publique. Et on est pogné avec ça. Puis je pense que s'il y avait un amendement au code criminel, puis qu'on poursuivait, qu'on accusait les gens qui tiennent des discours haineux, il y en aurait pas mal qui seraient accusés d'abord, parce qu'il y en a beaucoup de discours haineux depuis un an et demi. Mais on amènerait une certaine paix sociale parce qu'on empêcherait les radicaux de s'exprimer publiquement, puis de distribuer toutes sortes de propos haineux. Mais Trudeau, lui, il laisse aller ça, puis ça fait son affaire, puis c'est dans sa logique politique,
Donc, est-ce que vous
malheureusement.
êtes d'accord avec moi que la prise de décision au niveau de la loi, c'est la politique ne devrait pas être, tu sais, la couleur du parti ne devrait pas jouer dans la balance, là. Je veux dire, il faut y aller avec la logique et non à savoir si on va être réélu dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans.
Oui, c'est sûr. Mais tu sais, nous, on en parle ici aujourd'hui, mais il faut comprendre que cette loi, ce code criminel-là est de juridiction fédérale. Puis on peut s'étonner du fait que les propositions d'amendement ou de changement au code criminel viennent du gouvernement du Québec. Que font les 330 quelques députés à la Chambre des communes? Les conservateurs, pas un mot. Le NPD, pas un mot. Les libéraux, pas un mot. Puis le Bloc québécois, à un moment donné, quand Charcaoui s'est exprimé, il a commencé à avoir des craintes, puis il y a eu une espèce de montée de lait du côté du Bloc en disant qu'il faudrait bien qu'on puisse accuser dans le cas des discours haineux comme celui-là. Mais ça s'est embourbé dans le processus parlementaire, puis ça n'a jamais avancé. Alors voici 330 quelques députés fédéraux élus démocratiquement de quatre partis politiques importants au Canada qui ne bougent pas face à cette hérésie qui consiste à tolérer des discours haineux en autant que ce soit fait dans le cadre de la défense ou de la présentation d'un point de vue religieux. Alors, ça veut dire qu'en autant que tu aies un costume religieux, que tu sois un prédicateur, que tu sois une personne en autorité dans ta religion, on ne peut pas accuser pour un discours haineux parce qu'ils vont toujours se réfugier derrière cet argument-là, ce qui est odieux. Puis voilà, alors.
Maître Bellemare, si Adil Charkaoui s'est permis d'appeler à l'extermination des Juifs devant des milliers de personnes qui étaient sur la Sainte-Catherine à ce moment-là, qu'est-ce qui se dit entre les murs de la mosquée?
Bon, c'est ça.
Hein?
Ça doit être encore pire. Et ce discours-là a été central. Il est survenu peu de temps après l'agression du Hamas, si mon souvenir est fidèle, fin 2023. Ce discours-là a été connu, il a été visualisé, il est sur vidéo, il a été enregistré, il a été diffusé à vaste échelle. Et à mon avis, ça a été le point de départ d'une certaine escalade parce que là, tout le monde se dit, tous ceux qui sont prêts à tenir des discours haineux, des propos injurieux et qui en appellent à l'extermination de tel ou tel groupe opposé, se sentent légitimés. d'exprimer leur point de vue publiquement. Puis avec le web, puis avec les réseaux sociaux, ben là, ça fulmine, puis les manifs, puis envoyé par là. Et c'est pour ça qu'on est un peu en perte de contrôle. On est un peu victime de nos chartes puis de nos lois ultralibérales. Et quand c'est le temps de combattre le crime, comme d'habitude, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui se lève.
Maître Bellemare, une autre nouvelle qu'on a appris vendredi dernier, de Daniel Renault, qui est un des meilleurs journalistes de la presse, là, qui suit beaucoup les histoires de crimes organisés, qui a toujours été factuel dans son travail. C'est un journaliste qui rapporte les faits. Moi, c'est quelqu'un que je lis pratiquement à chaque jour, là. J'aime bien ce type de journaliste-là. Et ce qui est le fun aussi avec Daniel Renault, c'est que si jamais tu as quelque chose à lui dire, son propre numéro de téléphone est inscrit dans le bas de ses articles. Il n'a jamais transgresser les lois non écrites du journalisme, c'est-à-dire si tu parles d'un mafieux, ne parle pas de sa femme, ne parle pas de ses enfants, parle du factuel. Même chose pour ce qui est des Hells Angels, même chose pour ce qui est des gangs de rue. D'apprendre que Silva, qui est un tueur à gages, qui est en prison maintenant, mais qui avait été embauché par les divers groupes criminalisés, avait mis 100 000 sur la tête de Daniel Renault, alors que le gars a toujours bien fait son travail de journaliste. Ça commence à être stressant, là, faire ce job-là au Québec. Puis quel était le but derrière ça? Je me pose la question. Est-ce que c'est d'envoyer un message clair aux journalistes qui essayent de sortir de l'information? Vous devez cesser de sortir de l'information sur nous autres, parce que sinon, vous allez y passer. T'sais. C'est quoi le message là-dedans? Puis en même temps, ça laisse présager le pire. Si un gars comme Simon Jolin-Barrette décide de faire la guerre au crime organisé, puis tu y avoir un Silva qui mette, je sais pas moi, 500 000 sur la tête de Simon Jolin-Barrette, on est-tu rendu à ce niveau-là au Québec, là, la violence possible sur les politiciens ou encore sur les journalistes?
Oui, c'est ça. Ben, je pense que oui, dans une certaine mesure, mais c'est sûr que les médias, les journalistes, en sais quelque chose parce que tu travailles dans les médias depuis tellement d'années. Je suis convaincu que tu reçois tous les jours des messages d'auditeurs. Des fois, c'est fin, des fois, c'est moins fin. Des fois, c'est bon. Il y a toutes sortes de monde qui écoute. Il y a toutes sortes de monde qui émet des commentaires. Quand tu es un journaliste qui couvre la mafia, le crime organisé, puis que c'est ton travail, puis que tous les matins que le bon Dieu amène, tu t'installes sur ton clavier, puis tu écris quelque chose qui va toucher le crime organisé, des gens pour qui la vie n'a pas beaucoup d'importance, des gens qui sont prêts à tuer pour honorer le groupe criminalisé auquel ils appartiennent, c'est sûr que tu es plus vulnérable, tu es plus susceptible de te faire des ennemis. Des fois, il y a des informations qui peuvent couler. Des fois, les criminels, dans n'importe quel domaine, ce qu'ils recherchent, c'est l'anonymat. Si tu es un pédophile, tu vas être anonyme. Si tu es un fraudeur, tu vas être anonyme. Si tu es un membre d'un groupe criminalisé, tu vas être anonyme. C'est-à-dire que tu veux pouvoir faire des mauvais coups sans que ce soit trop connu. En tout cas, sans que l'origine du crime et sans que les auteurs des crimes ne soient connus. Et le journaliste, lui, c'est le contraire. Le journaliste, son rôle, c'est de rendre public des choses, d'informer la population. Puis tout ce qui touche le crime organisé, c'est hautement intéressant. Moi, en tout cas, je lis ça avec beaucoup d'intérêt. Ça m'intéresse, ça me passionne parce que c'est un monde à part, c'est un monde parallèle. Et les seules façons, à moins que tu en fasses partie de ce monde parallèle-là, les seules façons de savoir comment ils vont et comment ils fonctionnent, c'est les auteurs, les livres qui portent là-dessus, mais aussi l'actualité courante. Puis Daniel Renault, tu l'as dit, c'est un gars extrêmement bien en vue dans le domaine. Puis Michel Auger, qui avait été tiré, je pense que c'est en 2000, hein, ça fait déjà quand même près de 25 ans, les plus jeunes ne se souviennent pas de ça, mais Michel Auger était un journaliste bien en vue au Journal de Montréal qui a été tiré par un tueur à gages. Le tueur à gages n'a pas réussi à le tuer, mais il l'a blessé sérieusement par balle dans le parking du Journal de Montréal. Et ça a fait tout un tollé. Mais depuis ce temps-là, ça a été relativement tranquille, malgré la guerre des motards qui a sévi là, à l'époque-là, disons entre 1998 puis 2005 à peu près. Mais là, on voit qu'il y avait... Frédéric Silva avait... offert 100 000 piastres pour tuer le journaliste Daniel Renault de la presse.
Ouais, Michel Auger, c'était
réfléchir.
Le 13 septembre 2000, Maître Bellemare. Vous avez une bonne mémoire, Maître Bellemare.
Ouais, 2000. Ouais.
Encore à votre âge, vous avez une bonne mémoire, Maître Bellemare.
De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ben oui, des fois, j'écoute la radio, puis je vois des jeunes animateurs qui disent « Oh, telle année, telle année, telle année. » Puis moi, ça vient tout de suite. Je me souviens parce que j'étais là, puis j'étais dans la force de l'âge au moment où ça s'est produit, mais
Ouais. Mais
évidemment, le temps file.
il y a quelque chose de votre génération que je m'ennuie, c'est que vous appreniez pratiquement tout par cœur. Vous avez travaillé votre mémoire comme pas possible. Moi, j'ai
Oui.
connu comme vers la fin de ça, là, c'est-à-dire qu'on reconnaissait tous les numéros de téléphone de nos amis et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est, tu sais, vous me demanderiez le numéro de téléphone de ma conjointe. Je ne le sais pas parce qu'il est intégré à même mon cellulaire. Numéro de téléphone de mes amis, je ne le sais pas. On travaille de moins en moins notre mémoire. Puis je ne sais pas si on devrait peut-être craindre plus l'Alzheimer que les gens des autres générations qui, eux autres, devaient faire travailler constamment leur cerveau,
Bien, il y a juste une façon d'exercer la mémoire, c'est de la faire travailler. C'est un
là.
muscle, là, quelque part, hein, mais ce n'est pas un
Ouais.
muscle comme un biceps, mais c'est quand même un muscle. Puis il faut essayer de se priver un peu de ces moyens faciles, comme la calculatrice. Moi, je suis porté à prendre mon crayon, calculer avec addition, soustraction, division, puis de faire comme je faisais à petite école. Puis le numéro de téléphone, mais la meilleure façon, c'est de les composer toi-même. C'est sûr que. Il y a eu un temps où on avait juste 7 chiffres de téléphone. Aujourd'hui, on a nécessairement 10 chiffres partout parce qu'il y a toujours un 581, un 418 ou un 438 qui va précéder les 7 chiffres traditionnels. Mais si tu fais quelques pitonnages, c'est un petit peu plus long. Ça prend peut-être 3-4 secondes de plus pour pitonner le numéro, mais tu vas t'en souvenir si tu te pratiques. Mais si tu fais juste peser sur le piton, tu ne pratiqueras pas ta mémoire. Mais il y a d'autres façons de pratiquer sa mémoire, mais faire ce que tu fais comme métier. Parler, raconter l'actualité, mais ça te tient en vie au niveau cognitif, puis ça exerce la mémoire aussi.
Au niveau cérébral, ça, vous dites ça?
Ben oui, tu es tout le temps en référence à des événements, fait que tu n'as pas le choix d'aller chercher de l'information dans le temps aussi.
Si vous parleriez avec ma blonde, elle vous dirait qu'il n'y a pas grand truc de cérébral dans ma tête.
Donc, tu arrives à l'épicerie, puis tu te demandes pourquoi tu es allé là, c'est ça. Tu
Ouais.
descends dans le sol, tu te dis, coudonc, c'est un marteau ou un tournevis,
Ouais, c'est ça.
ou bien partir la sécheuse que je devais faire.
J'oublie jamais la caisse de bière, Maître Bellemare, mais c'était pas ça, a priori, que j'étais supposé aller chercher à l'épicerie. C'est peut-être ça pour ça, un peu, qu'elle, des fois, est fâchée. Elle me dit que j'ai pas de mémoire. Hey, un article que vous m'avez transmis, Maître Bellemare, aujourd'hui, c'est un article qui date de jeudi dernier. Propriétaire d'immeuble à logement qui essayait de faire sortir un locataire qui fumait à l'intérieur de son immeuble à logement. Pour être très honnête avec vous, j'ai beaucoup d'amis qui sont propriétaires d'immeubles à logement, beaucoup d'amis qui sont anti-fumeurs dans leurs immeubles et ils tiennent à ça mordicus parce que la fumée de la cigarette, ça occasionne certains problèmes dans les appartements. Puis de plus en plus de gens sont intolérants à la fumée de cigarette. Donc quand il y a un locataire qui décide de fumer de la cigarette, alors qu'il n'y a pas le droit, ben là, mes chums se font appeler par les autres locataires qui disent « Hey, le gars, au deuxième étage, il n'arrête pas de fumer la cigarette, ça sent la cigarette dans le bloc, blablabla. » Fait qu'ils sont tannés, se sont tannés un peu de ça, puis ils essayent le plus possible de les mettre dehors, de les avertir premièrement, mais quand ils n'écoutent pas, ils essayent de les mettre dehors d'une façon ou d'une autre. Dans le cas que vous m'avez transmis, là, dans ce cas-ci, c'est assez particulier parce que c'est un homme qui avait une permission spéciale de fumer du cannabis. On appelait ça du cannabis médical.
Ouais, écoute, moi, je suis complètement contre ce jugement-là. C'est un jugement du tribunal administratif du logement. Ça, c'est l'ancienne régie des loyers ou régie du logement pour les plus vieux. Et voici que le locataire, un dénommé Camille Riscala, un homme, il a mal dans le dos. Et puis, pour pallier à son handicap, il fume du pot avec prescription médicale. Comme c'est de plus en plus le cas. J'ai beaucoup de clients, moi, qui ont des prescriptions pour faire payer le cannabis, même par la SAC ou la CNESST, parce que c'est évidemment une façon de se priver de 56 000 cochonneries physiques, les narcotiques, puis les pilules qui te brisent l'estomac, fait qu'ils fument du pot. Mais là, c'est dans un logement, puis le propriétaire est exaspéré. Puis il dit à monsieur. Riscala, ou ben non, tu t'en vas, ou ben non, t'arrêtes de fumer du pot, parce que là, on est à bout, ça sent le swing, les locataires se plaignent, les voisins sont écœurés. C'est fumer du pot, quand c'est toi qui fumes, c'est le fun, là. Mais quand tu sens au festival d'été, tu te promènes sur le trottoir, une petite pof, ça ne dérange pas trop. Mais je vais te dire une affaire, quand c'est dans ta maison, ton domicile, puis là, la senteur passe par la ventilation,
Ouais. Ah non, ça sent partout dans l'immeuble.
la fan, la sécheuse, c'est tout connecté. Puis l'été, tu ouvres tes fenêtres, puis tu sens cette cochonnerie-là que tu n'as pas voulu. Et qui devient quelque chose d'irritant. Le propriétaire met de la pression, mais notre monsieur continue de fumer parce qu'il dit, moi, j'ai une prescription, j'ai mal dans le dos, j'ai tous les droits. Et là, le gars se tanne, puis il décide d'aller au tribunal administratif du logement, croyez-le ou non. Puis il dit, je suis harcelé, puis je veux avoir une compensation pour mon harcèlement. Alors, comme le harcèlement a le dos large dans notre société moderne, le moindre reproche devient du harcèlement. Ben, écoute bien, il a réussi à convaincre une juge administrative du tribunal administratif du logement qui avait raison. Puis la juge invoque quoi, d'après toi? La charte, bien sûr, la sacro-sainte charte du Québec, cette fois-ci, l'article 10, qui dit que tu as le droit d'exercer un droit pour pallier un handicap. C'est un peu le modèle du chien guide, là. Tu sais,
Ouais.
t'es aveugle, puis tu peux rentrer dans un restaurant avec ton chien guide parce que c'est pour pallier un handicap, puis il n'y a personne qui peut t'empêcher de rentrer dans le restaurant avec ton chien, compte tenu du fait que tu as besoin de ça pour pallier ton handicap. Sauf que, je ne sais pas, à moins que tu aies un chien qui soit complètement excédé, là, qui jappe tout le temps, puis qui va manger dans l'assiette du voisin à côté, à la table d'à côté, là, normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Mais si, dans une situation comme celle-ci, où la fumée, la senteur de la marijuana constitue un irritant pour les voisins, moi, j'aurais pensé que le tribunal aurait rejeté cette demande-là. Mais non, il l'a accueillie et le propriétaire a été condamné à payer 5 000 $ de dommages-intérêts pour avoir incité ce pauvre locataire qui fume du cannabis à quitter les lieux ou à arrêter de fumer. Alors, je trouve ça un peu excessif. Personnellement, là, je me dis, il y a quand même les droits des autres locataires. Je ne sais pas si ces autres locataires-là ont été entendus dans le cadre de cette cause-là, puis qu'on les a fait témoigner pour leur dire qu'ils ont des droits, eux autres aussi, parce qu'il me semble que le droit au maintien dans les lieux, c'est un droit fondamental. Le droit d'une jouissance paisible de son logement, c'est un droit fondamental. Il y a comme plusieurs droits fondamentaux, là, qui se rapprochent ou qui se heurtent. Et on ne sait pas si le propriétaire va aller devant la Cour supérieure parce que le tribunal administratif du logement est soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure lorsqu'il rend des décisions qui n'ont pas d'allure. Alors peut-être que cette affaire-là va se retrouver en Cour supérieure si le propriétaire décide de prendre des moyens pour obtenir justice. Mais je trouve que c'est assez poussé comme logique de la part du tribunal administratif du logement. Puis, je sais pas, c'est pas une cause facile. Ce monsieur-là a mal dans le dos, je comprends, mais en même temps, il y a peut-être moyen d'avoir un soulagement de ton mal de dos autrement qu'en fumant du pot et en écœurant tous tes voisins.
Ouais, tu sais, moi j'ai plein d'empathie pour cet homme-là qui avait une prescription pour fumer du cannabis médical pour son dos, mais je pense aux citoyens aussi qui sont autour, qui doivent endurer cette odeur-là qui leur plaît possiblement pas. Puis je pense aussi aux propriétaires d'immeubles, hommes comme femmes, qui se retrouvent avec des gens qui, du jour au lendemain, commencent à fumer dans leur appartement. C'est extrêmement dur de mettre quelqu'un dehors, là. Ils sont obligés des fois de dire, ah ben moi je vais prendre cet appartement-là pour ma mère ou pour mon frère. Puis si c'est vrai, OK, c'est correct, il peut prendre le logement, mais si c'est pas vrai, puis ils se font prendre, ils se ramassent avec encore plus de problèmes que le locataire qui fumait dans son appartement. C'est complexe. C'est très, très, très,
Ben
très complexe.
je ne sais pas, moi, le gars qui est sourd comme un pote, là, tu sais, il y en a des sourds, là.
Ouais.
Il y en a beaucoup, là. Disons qu'à partir de 65 ans, on présente la plupart du temps un trouble de vieillissement qui s'appelle la presbyacousie, qui est un phénomène normal de surdité progressive. L'ouïe affaiblit et on fait preuve de presbyacousie, des acouphènes, etc. Alors, les gens plus âgés écoutent la TV plus fort, puis la radio plus fort, puis la musique plus forte. Alors, si tu écoutes la musique plus forte parce que tu es sourd, est-ce que tu vas pouvoir dire, ben là, j'ai pas le choix que d'écouter la musique plus forte, puis c'est pour ça que mes voisins sont excédés parce que et entendre ma musique à pleine tête le samedi matin. Ça va jusqu'où, là, le handicap, puis la façon de pallier un handicap, puis est-ce qu'on va tolérer à peu près n'importe quoi sous prétexte qu'il y a un handicap, puis que la charte protège le handicap et tout ce qui ressemble, tout ce qui est associé au handicap? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'en quelque part, à un moment donné aussi, il faut tenir compte des droits des voisins qui ont payé un loyer, puis ça donne que c'est cher les loyers, là, ça a augmenté deux puis trois fois là, depuis une dizaine d'années. Depuis que Justin Trudeau est au pouvoir.
Exact. Mais je vous salue, hein, si vous vous lancez dans l'immobilier, là, des fois, ça peut être
Ouais, c'est
effectivement
ça.
des casse-têtes, là, puis, tu sais, on est rempli d'empathie envers les gens qui souffrent. On veut toujours les aider, mais au travers de ça, l'immobilier, tu te ramasses avec des gens qui ont des troubles de santé mentale. Tes locataires autour, eux, n'ont pas de troubles de santé mentale et veulent pas vivre avec quelqu'un dans leur immeuble qui a des troubles de santé mentale puis qui crie à 3 h du matin. Je vous le dis, quand je leur jase, là, Maître Bellemare, ça me dissuade de me lancer en immobilier un jour, là.
Bien, moi, je vais te faire une confidence, là. Fin des années 90, début des années 2000, j'ai eu plusieurs immeubles à Québec. J'avais à l'époque une pratique du droit qui touchait aussi certaines coopératives d'habitation à Québec. Parce que j'avais moi-même créé, mis sur pied une coopérative d'habitation en 82. Je connaissais tout le monde dans ce domaine-là. Puis je défendais les coops d'habitation qui avaient des problèmes avec des membres locataires. Parce qu'il y a même si c'est une coop d'habitation, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des plaies dans ton immeuble. Hein? C'est des mauvais locataires, il y en a partout, même dans les immeubles coopératifs. J'allais devant la régie du logement à l'époque, qui est devenue le tribunal administratif du logement, et j'ai vu comment ça marchait, puis j'ai vu comment la régie du logement était favorable aux locataires, puis comment c'était difficile d'obtenir des remboursements de loyer, des évictions, des départs. Pour des locataires indésirables. Et quand j'ai commencé à acheter des immeubles, je peux-tu te dire une affaire? J'ai jamais acheté un immeuble résidentiel parce que je ne voulais pas vivre ça. Je ne voulais pas vivre ça. Je voulais avoir des immeubles commerciaux. J'ai eu juste des immeubles commerciaux où il n'y a pas de régie du logement, puis où tout se règle si jamais il y a des litiges devant les cours civils. Mais c'est business as usual, commercial, puis tu deals avec des locataires commerciaux. Puis tu n'as pas la sacro-sainte régie du logement d'impact parce que, effectivement, oui, c'est bon de protéger les locataires, ça prend des mesures parce qu'il y a des propriétaires abusifs, mais c'est clair que toutes nos lois relatives au logement sont ultra-protectionnistes pour les locataires, puis pour les propriétaires qui ont des droits aussi, puis qui veulent se défaire d'une vraie tache, là, qui ne paye pas, puis qui brise tout, puis qui fait du bruit, puis qui fume du pot, là. Attache ta tuque parce que ça risque d'être long, puis ça risque de coûter cher aussi, parce que toutes ces démarches-là, en matière de logement, coûtent un bras, là.
Ouais, puis on a des crosseurs professionnels qui connaissent les lois sur le bout de leurs doigts, qui savent exactement il y a combien de semaines à la régie du logement avant que tu puisses passer avec le propriétaire de ton immeuble. Puis eux ont vraiment l'impression que le logement leur appartient, fait que qu'ils le payent pas ou non, ou s'en sac éperdument. Puis là, le locataire, ben lui, il sauve un 1 000 $ par mois en payant pas. Puis le propriétaire du logement, lui, qui a une hypothèque à payer, ben, mange de l'argent pendant que le tribunal administratif du logement, lui, essaye de faire son possible pour te mettre dans la liste, puis un jour, tu vas passer, mon ami. Puis ça veut pas dire
Oui,
que
puis
tu
des fois, ça prend comptable, avocat, témoin, grosse affaire, là. C'est pas parce que c'est un petit tribunal administratif que tu n'as pas des causes qui demandent à mobiliser beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Parce que tout le temps que tu passes à régler tes problèmes au tribunal administratif du logement, mais tu ne fais pas d'autre chose pendant ce temps-là, puis c'est généralement assez coûteux au bout de la ligne.
Maître Bellemare, on va faire une courte pause. On va revenir dans quelques secondes, les amis, parce que c'est lundi. C'est les lundis avec Maître Marc Bellemare sur les ondes de Boulevard 102.1. Dans Marceau, soir, on vient.
Marceau, le soir.
Boulevard, le pit stop. 102.1.
La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le pit stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils n'ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau midi, mon gars.
Le Pit Stop. Tous les jours de la semaine, midi.
1, 2, 1.
Acheter un panier d'épicerie virtuel au profit de la campagne Un Noël sans fin du Petro-Rocamadour, c'est faire notre part ensemble pour diminuer l'insécurité alimentaire de milliers de familles et de personnes seules de Limoilou. Boulevard 102-1 vous invite à donner généreusement en cette période de partage et d'amour. Le Petro a besoin de vous et de votre grande générosité pour apporter du réconfort toute l'année aux gens qui font face à ce défi au quotidien. Achetez un panier dès maintenant sur le site Internet du Patro.
Le Père Noël boit juste des pintes de lait. Il ne connaît rien au houblon. Contrairement à nous, chez Chaloux, Chaloux, Beauport, Saint-Émile et au Grand Marché.
Le temps des fêtes approche et vous cherchez un moyen d'aider les gens dans le besoin? Certaines familles ou personnes vulnérables peinent à maintenir une condition de vie acceptable. Noël s'annonce plus difficile pour certains. En cette période d'amour et de partage, rendez-leur un peu de dignité en donnant à la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous à faire-la-différence.ca pour un don en ligne ou passez à l'épicerie près de chez vous pour remettre des denrées à nos bénévoles. Cette année, faites la différence.
Bienvenue au service à la clientèle. Pour tenir des propos diffamatoires, faites le 1. Pour passer des commentaires haineux, faites le 2. Pour crier ou injurier quelqu'un, faites le 3. Pour ruiner la santé psychologique de l'un de nos agents, faites le 4.
La violence psychologique au travail ne devrait jamais être une option. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour éliminer les risques pour la santé psychologique dans nos milieux de travail. Un message de la CNESST.
Salut, c'est Martin Dallaire, porte-parole du restaurant Ophélia. Si vous n'êtes jamais allé chez Ophélia sur Grande Allée, vous devez y aller. C'est pas mêlant, c'est littéralement un voyage gastronomique entre terre et mer. Goûtez leurs créations audacieuses, inspirées de la mer et de la terre. Plats raffinés, cocktails signature et ambiance feutrée. C'est la place parfaite pour un apéro entre amis ou une célébration. Réservez dès maintenant et laissez-vous épater. RestaurantOphelia.com.
Le site Mercado.fm, qui vous affiche les meilleures offres locales au meilleur prix, connaît un tel succès qu'on a décidé d'engager un nouveau porte-parole.
Salut les chums, c'est Reg.
Trop cher.
Hey, salut! C'est Marceau.
Ah, désolé, on n'a pas les moyens.
Hey, salut! Si vous me choisissez comme porte-parole, je vous promets d'être absent au meeting, mais je vous promets de faire semblant sur Zoom, par exemple.
Non plus. Mais on s'est vite rendu compte que la force de Mercado.fm, c'était les prix qui faisaient que les gens revenaient jour après jour. On a choisi un nobody gratis pour nous parler de Mercado. Tu peux y aller.
Hey, c'est à moi, là? OK. Divertissement, soins, hébergement, restaurant, ça rime, mercado.fm.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard.
102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Bellemare est avec nous ce soir. Non, Maître Bellemare, si vous pensiez que j'allais avoir des plaintes de la part des locataires, je ne l'ai pas encore reçu à la station, là, mais c'est pas grave. Je pense que d'un bord comme de l'autre, il peut y avoir une mésentente, mais quand il y a de la mauvaise foi d'un bord comme de l'autre, c'est extrêmement frustrant. Puis malheureusement, on entend parler, nous, de ces histoires-là, surtout quand on a des amis dans le merveilleux monde de l'immobilier. Là. Puis d'ailleurs, vous
l'avez fait. On sait comment c'est pas facile aujourd'hui, effectivement.
Exact. Maître Bellemare, ça a-tu causé du trouble à ben du monde, ça, le retour en présentiel au travail? Parce que la COVID a fait en sorte que les entreprises se sont pris en main et ont été capables de faire travailler leurs employés à distance, que ce soit dans le privé ou encore au gouvernement. Puis là, au gouvernement, dans les derniers mois, on a commencé à dire « Ouais, ça serait bien que les fonctionnaires reviennent au travail 5 jours par semaine. » Puis là, ben, se sont ligués à des gens les employés qui, eux, ne voulaient pas retourner au travail 5 jours par semaine. Fait que des fois, ils se sont entendus sur 2 jours, des fois, ils se sont entendus sur 3 jours. Ça, quand on a donné ça aux employés, le droit de travailler à la maison, on leur a donné un bonbon dont ils ne veulent pas se séparer aujourd'hui.
Oui, parce que si tu as un contrat signé avec tes employés, il faut toujours que tu prévoies que c'est toi le boss, puis c'est toi qui vas décider si c'est présentiel ou si c'est virtuel. Bon. Parce que il y a un jugement qui est sorti il y a quelques jours du tribunal administratif du travail qui implique une dame qui s'appelle Guérard et elle travaille, elle, pour Saman Inc., qui est une firme, et Mme Guérard travaille comme sur la route, OK? Et bon, alors, elle doit se déplacer, etc. Puis, à l'occasion des changements imposés par la pandémie, elle a décidé qu'elle voulait être en télétravail, donc en virtuel, à la maison, ce que l'employeur a accepté. Ça va? Maintenant, elle a pris goût à ça. On comprend facilement pourquoi. J'imagine que, bon, les enfants qui reviennent de l'école, tu es là, préparer les lunchs, un enfant malade, tu es à la maison. Écoute,
Ah,
ça a
mais
peine.
savez-vous
Pour
quoi?
quelqu'un qui a une famille, c'est du bonbon, le télétravail, hein?
Le trafic, les heures que vous passez dans votre
Ah
voiture où vous n'êtes pas du tout productif, effectivement, t'sais, pour les gens qui peuvent le faire à la maison, il y a plein, plein, plein d'avantages. De mon côté, j'y vois plein, plein d'avantages, mais de l'autre côté, je sais que moi, si je suis à la maison, vous pouvez être sûr que ma concentration au travail, elle ne sera pas là à 150 % parce qu'il y a le frigidaire qui t'appelle, il y a la télé qui t'appelle, il y a le divan qui t'appelle, tout le monde t'appelle dans la maison, là. Fait
Le
que
chien qui
le
t'appelle.
chien t'appelle, les chats te dérangent, il se passe tout le temps de quoi, les enfants arrivent, ils veulent te parler. Fait que moi, j'aime mieux, je suis parti de l'ancienne école, moi, j'aime mieux me présenter en présentiel chez mon employeur, puis être là à 100 %, t'sais. Mais je comprends qu'il y en a qui sont parfaitement fonctionnels à la maison, là.
Mais dans le cas de Mme Guérard, ce qui s'est produit, c'est que elle a obtenu son employeur de travailler à la maison en télétravail. Elle a pris goût à ça. Et quelques mois plus tard, le boss a dit, OK, c'est terminé le virtuel, tu rentres au bureau. Alors, elle a dit, non, 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 moi, j'aime ça le télétravail, puis je rentre pas au bureau. Oui, tu rentres au bureau. Fait que là, il y a une chicane qui s'installe parce que le patron veut qu'elle se présente au travail comme au tout début. Alors, elle décide de loger une plainte en disant, ben là, c'est un congédiement déguisé parce que le boss, là, s'il exige que je rentre au travail plutôt que faire du télétravail, c'est parce qu'il veut se débarrasser de moi, parce que moi, c'est comme si c'était un congédiement déguisé. Mais crois-le ou non, ça a marché son affaire. Le tribunal lui a donné raison. Incroyable, hein? Le tribunal a dit, ça n'a pas de bon sens d'imposer à cette pauvre travailleuse de retourner au bureau. Donc, c'est effectivement un congédiement déguisé en ce sens que si on lui impose de retourner au bureau, elle n'est pas capable de le faire ou c'est un fardeau additionnel pour elle, c'est plein d'inconvénients rattachés à ça. Alors, le tribunal a donné raison à cette femme-là, a considéré que c'était une mesure abusive et a décidé de considérer que c'était un congédiement déguisé. Donc, le tribunal a retiré, a dit que l'employeur avait substantiellement modifié une condition essentielle de son contrat de travail et la travailleuse a été réintégrée ce faisant. Donc, ça a été considéré comme un congédiement illégal. Puis, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que au niveau du télétravail, les employeurs devraient s'assurer de prévoir clairement les conditions de l'exécution du travail à distance. Des mentions précises qui disent, ben, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, c'est temporaire, puis c'est pas permanent, puis n'importe quand je peux virer de bord, puis décider de modifier les heures, télétravail, la proportion de télétravail, la proportion de présentiel, tout télétravail, tout présentiel, mais c'est peut-être pas mauvais de le prévoir, au moins qu'il y ait des directives dans le milieu de travail pour pas que ça soit perçu d'aucune manière comme étant une mesure facultative ou une mesure définitive qui empêcherait l'employeur de modifier les conditions ces conditions de travail-là, au risque, bien sûr, d'être blâmé par le tribunal administratif du travail. Ça va loin. Hein? On est fin au Québec. On en a des lois sociales, puis envoyé par là. Puis, moi, je trouve que ça va loin. Là. Je lis ça de temps en temps, puis je me dis, mon Dieu, y a-t-il encore des patrons dans ce pays? Est-ce que c'est encore une économie capitaliste ou si on est rendu qu'il y a plus de boss, il n'y a plus personne qui prend de décision? On a
Ouais, puis
l'impression
je me pose la question
c'est
plus
un peu
loin,
l'anarchie, hein?
mais Maître Bellemare, les gens qu'on oblige à retourner en présentiel au gouvernement pourraient se fier sur cette décision-là pour contester le retour au travail?
Bien, c'est sûr que ça constitue ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire une décision qui pourrait faire des petits. Ça vient de la plus haute autorité judiciaire en matière de droit du travail au Québec, qui s'appelle le tribunal administratif du travail. C'est eux qui décident de la loi des normes du travail, des
Ouais.
congédiements déguisés, des congés de maternité, le salaire minimum, les congédiements. non justifiée, etc., les accidents de travail. Donc, le tribunal administratif du travail, c'est une instance importante et c'est considéré comme étant final. Tous les cas de harcèlement aussi. Alors, oui, c'est une décision dont je viens de parler qui est importante. Ça veut dire que les employés qui ont obtenu du télétravail et tout à coup l'employeur décide de modifier ces règles-là, peuvent contester puis dire que c'est une mesure abusive ou que c'est une forme c'est une façon pour l'employeur de pousser à la rue ou hors travail des employés, compte tenu que c'est quand même une condition importante. Ce que le tribunal dit, c'est que le fait de travailler en télétravail, c'est une condition fondamentale du contrat de travail, puis je le pense. Si tu permets à quelqu'un de travailler 35 heures par semaine chez eux à domicile, c'est pas comme au bureau. Ça a beaucoup d'importance et ça change considérablement le contrat de travail dans son essence même. Alors, c'est pour ça que le tribunal a considéré qu'en touchant à cet aspect-là du travail, l'employeur, finalement, privait le travailleur d'un exercice régulier de son travail. Puis ça constituait, c'est une façon, finalement, de modifier substantiellement les conditions.
OK, mais c'est vous l'avocat. Moi, je n'ai été qu'un simple gestionnaire, là, mais quand je me mettais dans la tête de sacrer quelqu'un dehors, je m'arrangeais pour avoir de très bonnes raisons. Donc, je montais un dossier sur cet employé-là. Si l'employé faisait des erreurs magistrales, là, même des erreurs des fois qui étaient intentionnelles, exemple sur le temps qu'il passait dans un bureau, ben là, je regardais l'armement et le désarmement du système d'alarme, puis je regardais les heures qu'il avait mis, puis là, ben, je constatais qu'il y avait plus d'heures qui considéraient travailler à l'intérieur de ce bureau-là que le temps entre le système d'alarme désarmé puis le système d'alarme armé. Fait que là, je voyais qu'il y avait une différence. Oh, il vient de se rajouter un 2 heures de temps à cet endroit-là précis. Fait que là, ça, c'est du vol de temps. Moi, je considérais ça comme une erreur. Je rencontrais l'employé, je parlais du vol de temps. Puis je disais, moi, j'ai constaté qu'il y a eu un vol de temps à ce moment-là. Tu peux-tu signer comme quoi tu as été averti que la prochaine fois, ben, ça risque d'être un congédiement? L'employé signait, puis là, je mettais ça dans son dossier. Puis une fois où j'avais 3 arguments assez solides pour dire, ben, pour toi, c'est terminé. Ben, je le mettais à la porte après la 3e offense, entre guillemets, puis j'ai jamais eu de problème de ce niveau-là. Donc, si l'employeur avait constaté que cette dame-là, je sais pas moi, elle fournissait pas le même rendement qu'elle fournissait au début de son embauche, ben ça peut être un critère, ça, de rencontre avec l'employeur en disant, ben là, tu travailles de la maison, t'es pas très performante, tu devrais peut-être augmenter ton niveau de travail parce que ça fait pas, puis après ça, tu l'as fait signer comme quoi tu l'as rencontré à cet effet-là. Tu sais, bien documenter les choses que tu fais avec ton employé, puis de l'autre côté, pour l'employé, lui, il peut documenter les rencontres qu'il a avec son employeur, puis il peut même enregistrer les rencontres qu'il a avec son employeur, puis si jamais, ben, la situation dégénère, ben, d'un bord comme de l'autre, vous aurez assez de preuves accumulées l'un contre l'autre pour que le juge puisse se faire une tête là-dessus. Mais dans ce cas-ci, c'est injuste pour l'employeur, mais il a travaillé un peu de travers, Maître Bellemare, là.
Il a travaillé un peu de travers. On ne connaît pas tous les faits. Moi, je n'étais pas dans cette cause-là. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si l'employeur a permis de faire du télétravail sans trop de restrictions, en disant « oui, je te permets de faire ton chiffre chez vous à domicile dans telle condition », ça devient un acquis. Et si ça devient un acquis, ça devient une condition de travail qui lie les parties, c'est-à-dire l'employeur et l'employé. Puis si tu peux prouver qu'en modifiant cette condition de travail-là puis en exigeant du présentiel, compte tenu que tu t'es habitué au virtuel puis que tu as toute monté ta vie autour de ça, que ça constitue quasiment un congédiement déguisé parce que tu ne pourras pas retourner en présentiel parce que toute ta vie s'est organisée autour du virtuel. Puis si tu dois retourner en présentiel, c'est impossible, de sorte que ça constitue comme une forme de congédiement. Bien là, tu vas obtenir que le tribunal te réintègre ou casse cette sanction-là. Mais ça dépend de chaque dossier, effectivement. Mais dans la décision dont je viens de parler, il n'y a aucune référence à un problème disciplinaire ou un problème d'incompétence. C'est plutôt le changement à une condition centrale du contrat de travail qui a été considéré comme étant abusif de la part du tribunal. Chaque cas est un cas d'espèce, mais déjà ça, c'est un peu surprenant de voir que le tribunal a pris cette voie-là.
Ouais. Chaque lundi, Maître Bellemare, vous travaillez beaucoup à distance avec nous. Là, je suis en train de revoir votre contrat, Maître Bellemare.
Tu tu vas baisser mon salaire.
Mais je vais baisser votre salaire, effectivement.
Okay. Je vais aller au tribunal administratif du travail d'abord.
Ils vont peut-être être surpris du montant qu'il y a en bas de votre contrat. Là, mais...
on fera peut-être un procès public. Hein? On mettra ça en ligne. Ça va pogner. Ah, ça va être Bellemare contre Marceau. Oh là là!
J'en doute pas. Des dossiers de CNESST, des dossiers de SAAC, d'IVAC, on peut vous contacter chez bellemareavocat.ca?
Tout à fait. Jour et nuit.
En ce lundi soir, Maître Bellemare, je souhaite de passer une super de belle semaine et on se reparle la semaine prochaine en présentiel, peut-être, qui sait, vu que je mets de la pression, j'aurai l'occasion de vous voir.
Puis nous autres, on va être là, tous les deux.
Salut tout le monde. Passez une belle soirée. Salut. On se reparle demain. Ciao.
Marceau, le soir.
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. bellemareavocat.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Le groupe Efficience Soins Infirmiers vous offre une alternative personnalisé pour des services tels que prélèvement, vaccination, test PAP, cryothérapie, dépistage ITSS, santé voyage et plus encore. Environnement chaleureux, accueillant et facile d'accès. Pour une santé à votre mesure. À Le Bourgneuf, Charlebourg et Lévis, Groupe Efficience.
La pub que vous êtes en train d'écouter, ben, elle s'est pas rendue là comme par magie. Ça prend